de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Céline fait toujours parler et écrire. On n'en finit pas de le raconter, de le commenter, de l'analyser, de le déclamer. Avec toujours le même débat, faut-il le prendre d'un bloc ou détacher le lamentable antisémite du génial écrivain ? Et aussi, avait-il réellement le génie qu'on lui prête ? Une chose est sûre, Céline embarrasse encore et les emballements qu'il suscite appellent un examen légitime. Dans l'avant-propos de son Céline de 2009, Philippe Solers est lui catégorique. Je sais que cela prendra encore un siècle ou deux, mais il faut le débarrasser de ses oripeaux, de ses déguisements de fou vociférants, et cela va de soi, de son antisémitisme. L'image qui prédominera alors sera celle d'un Céline enfantin, plus exactement dans l'innocence de l'enfant qui perdure. Céline est à tout jamais un innocent dans un monde coupable. On n'est pas tenu de souscrire, mais on peut entendre avec profit le familier qu'est Solers de l'œuvre de Louis-Ferdinand Destouches dans le dernier volet de la série consacrée par Jean Montalbetti à Céline en 1980 dans « Un homme, une ville ». Après Paris et Copenhague, c'était du côté de Meudon que s'achevait cette marche dans les pas de l'écrivain. On y entendait François Gibault, biographe de Céline, et Frédéric Vitoux, auteur de plusieurs livres consacrés à Céline. Les textes étaient lus par Michel Vitold. Un homme, une ville, troisième et dernier volet de la série Céline avec Philippe Solers, Céline à Meudon de 1951 à 1961, un héros convulsif de l'horreur moderne par Jean Montalbetti et Christine Bernard-Sugy.
Il y a donc 15 ans que vous travaillez sur Céline et je crois que vous continuez à chercher et vous découvrez également des documents inédits. Vous nous en avez sorti un que vous avez
récemment. Oui, c'est un document assez extraordinaire, je crois. C'est une lettre que Céline avait écrite à Mauriac, sans doute après la parution de Voyage au bout de la nuit. Et Mauriac, curieusement, avait écrit à Céline. Cela dit, il faut bien penser une chose, c'est que Céline n'a jamais été, comme une image un peu trop vite fait le dit, un être en marge des milieux littéraires, sauvage, vivant, soit son dispensaire de clichés, soit avec ses copains un peu marginaux. Céline a été un homme de lettres. À partir de 1932, il fréquentait des écrivains, il entendait des correspondances. Il y avait tout un aspect littéraire, officiel de Céline. Et je crois que ça, il est devenu le maudit, le paria, le relégué. C'est l'image un peu du Céline d'après la guerre, à Meudon, replié, semi-clochard. Mais c'est pas du tout le cas en 1932, à mon avis. Et c'est pas un hasard donc si Mauriac lui écrit en 1932 et Céline lui répond cette lettre. « Monsieur, vous venez de si loin pour me tendre la main qu'il faudrait être bien sauvage pour ne pas être ému par votre lettre. Que je vous exprime d'abord toute ma gratitude un peu émerveillée par un tel témoignage de bienveillance et de spirituelle sympathie. Rien cependant ne nous rapproche, rien ne peut nous rapprocher. Vous appartenez à une autre espèce, vous voyez d'autres gens, vous entendez d'autres voix. Pour moi, simplet, Dieu c'est un truc pour penser mieux à soi-même, pour ne pas penser aux hommes, pour déserter en somme superbement. Voyez combien je suis argileux et vulgaire. Je suis écrasé par la vie, je veux qu'on le sache avant d'en crever, le reste je m'en fous. Je n'ai que l'ambition d'une mort peu douloureuse mais bien lucide, et tout le reste c'est du yo-yo. Bien sincèrement, je vous prie des touches, Céline. »
Ce qui est curieux là-dedans,
c'est la métaphore militaire.
Oui.
Dieu, ça serait un truc pour déserter. Et là, on retrouve le côté un peu courageux. Et cette idée chez Céline, qu'il y a lieu de ne pas se dérober à ses responsabilités, et à ses responsabilités dans tous les sens, c'est-à-dire avec une sorte de courage quand même militaire qui doit rester jusqu'au bout.
Oui, je crois qu'il y a deux choses.
C'est une lettre un peu militaire, c'est ça
c'est une lettre militaire et médicale.
C'est ça.
Parce qu'on peut parler aussi de la médecine, parce que c'est pas un hasard aussi, c'est écrit en tête du dispensaire.
Voilà.
Il y a d'une part, effectivement, 32, la guerre est proche, et la guerre, c'est à peu près le thème initial du voyage.
Oui, vous voulez dire la Première Guerre mondiale, oui.
La Première Guerre mondiale, bien sûr. Mais aussi, quand on parlera des pamphlets, quand on parlera de Céline pamphlétaire, ça sera toujours à l'horizon pour comprendre ça, la Première Guerre mondiale, la guerre. Tous les pamphlets ne s'expliquent, à mon avis, que par ça. Parce que l'avant-guerre, pour Céline, c'est un peu le paradis. Céline ne rêve pas du tout à un ordre nouveau, comme les fascistes pouvaient rêver. Il rêve à un ordre passé. pour lui, l'idéal, c'est sa grand-mère, le monde, même, je dirais, même d'avant 1900, d'avant l'exposition universelle. C'est le paradis, c'est le moment d'avant sa naissance, d'avant le péché originel qu'est sa propre naissance.
C'est curieux qu'il y ait tout de même cette présence de la mort chez cet homme, qui est tout de même un homme de la force de l'âge, un homme jeune, et qui se situe et qui dit cela en période de paix, et à un moment où la présence de la Seconde Guerre mondiale n'existe pas encore.
C'est vrai. Enfin,
on est dans l'avant 33.
C'est vrai. Céline, sortant de la guerre, décide à ce moment-là d'être médecin. Et je crois que là, justement, ne pas déserter, c'est se coltiner de front, de face, avec la vérité de ce monde qui est la mort, comme il le dit d'ailleurs dans le voyage.
Il y a une très belle parole d'Élie Faure à propos de la mort chez Céline. Il dit ceci: Céline est pleine de la mort comme toutes les grandes âmes, et le goût lui en monte aux lèvres dans le vomissement et le sanglot. Comme toutes les grandes âmes, il ne peut croire à l'immortalité. Son pessimisme transcendant le rejette dans le vrai monde, dont l'horreur le renvoie à la mort, toujours à la mort.
Oui, non, il y a évidemment chez Céline le fait que, avec sa vision extraordinairement décomposante de la pourriture en suspens, comme il dit, qu'est l'humanité en général, il pense que quand même quelque chose de l'ordre d'une santé devrait être exalté, sauvé, favorisé, n'est-ce pas? C'est d'un côté son image de la danseuse, de la femme, du corps sain et beau, etc., qui peut quand même surgir et se hisser au-dessus de cette espèce de mer de décomposition et de merde générale.
C'est l'apesanteur, ça.
C'est ça. Alors, poussant à fond dans la conception et le constat de la mort lucide, il va de l'autre côté, pour contrebalancer ça, en effet, avoir besoin d'une sorte d'idéologie de la santé, de l'hygiène. Ouais. Et c'est là, alors, où, en effet, on peut retrouver des thèmes qui viennent d'ailleurs. Enfin, lui se voit grec absolument de ce côté-là, mais les Grecs, à ce moment-là, un peu filtrés par l'Allemagne, ça peut donner quelque chose que nous connaissons.
Philippe Sellers, nous terminons ces trois itinéraires céliniens à travers Paris et au Danemark, et nous les terminons chez vous, boulevard de Port-Royal, parce qu'il nous intéressait aussi de savoir quelle était la place qu'occupait Céline dans votre bibliothèque pour Sellers, écrivain.
Eh bien, évidemment, il y a tous les livres de Céline chez moi, et ça fait très longtemps que, de temps en temps, je les prends et je les reprends pour simplement aller plus loin dans la connaissance de ce qu'il faut bien considérer comme un des textes les plus importants du XXe siècle. Donc, ce sont des livres qui sont là, comme sont là les très grands classiques. Homère, Shakespeare, Sophocle, Euripide, etc. C'est donc avec cette distance-là, je crois que maintenant, il faut apprécier Céline. Distance très difficile à obtenir, étant donné que nous sommes encore probablement trop près du fait que quelque chose a explosé là, et que la plupart du temps, les discussions se limitent à la perception psychologique et idéologique du cas Céline, c'est-à-dire finalement à sa figure historique ou politique, et nous sommes encore dans la domination de la vision politique du monde qui veut empêcher, à travers un certain nombre de tabous, de parler de la littérature. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument dépasser ces tabous et prendre Céline en bloc comme une très grande aventure du délire humain. Délire qui, lorsqu'il est exprimé avec cette subversion et cette force dans la langue, met à plat, révèle le délire humain qui, lui, ne se dit pas et qui est meurtrier du fait précisément de ne pas se dire. C'est pour ça que je crois qu'il faut entièrement dépasser ce problème d'un Céline bouc émissaire qui serait, lui, coupable d'avoir dit ce qui ne se dit pas et ce qui se pense dans l'ombre
de la pulsion de mort et de la volonté d'assassinat. À ce moment-là, ça voudrait dire, comme selon la formule assez énigmatique de Hegel, que la fin de l'histoire que nous vivons peut-être, c'est quoi ? C'est la mort qui vit une vie humaine. Donc peut-être que nous sommes tous morts et que nous vivons des vies humaines, le temps simplement de mourir et de laisser la place aux figurants d'après. Je crois que Céline est quelqu'un qui a cette vision. C'est pour cela que c'est dans la catégorie mystique ou prophétique que je le range tout naturellement. Je peux très bien, et sans aucune discordance, passer de Ézéchiel, Jérémie, et des grandes prophéties de la Bible, et de la grande intonation biblique, à sa réalisation réaliste dans Céline. Ce que je dis a l'air peut-être extraordinairement paradoxal, dans la mesure où Céline, ce serait celui qui aurait rejeté, expulsé, craché, vomi la réalité biblique, mais bien au contraire, je crois que c'est en prenant tout à fait sur lui, comme une sorte de possession intérieure, de convulsion, cette redécouverte du fondement biblique, que par sa convulsion même, il la découvre, il nous permet de l'entendre. Il y a là un paradoxe que d'aucuns trouveront monstrueux, mais que j'affirme, dans la mesure où ne pas comprendre que dans cette région-là, quelque chose de catastrophique déclenchant une vision tout autre du temps et de l'espace se produit, ne pas comprendre cela, c'est être tout à fait sourd à quelque chose qui nous interpelle et qui se passe quelque part entre l'oreille et le souffle.
Renégat, moi ? Renégat qui ? Renégat quoi ? Renégat rien ! Mais j'ai jamais renié personne ! L'outrage est énorme ! Quelle est cette face de fumier qui se permet de m'agonir à propos du communisme ? Un nommé Hesley qu'il s'appelle, mais je le connais pas ! D'où qu'il a pris de telles insultes ? D'où qu'il sort ce fielleux tordu ? S'est-il culotté, cette engeance ? C'était bien écrit en pleine page et grave caractère. Il n'y avait pas du tout à se tromper. Elle avait raison, la dame. L'opinion des renégats n'a bien sûr aucune importance. Les Gilles, les Célines, les Fontenois, etc. Ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Il est soufflé, mère de ce cave. De quel droit il se permet ce veau de salir de la sorte ? Mais je n'ai jamais renié rien du tout. Mais j'ai jamais rien adoré. Où qu'il a vu cela écrit ? Jamais j'ai monté sur l'estrade pour gueuler. Non, non, non ! J'ai jamais macronisé dans les meetings. Je vous adore, mon Staline, mon Litvinov. Adoré, mon Comintern. Je vous dévore éperdument. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. Ma carte, elle doit y être encore à la mairie du deuxième. J'ai toujours su et compris que les cons sont la majorité, que c'est donc bien forcé qu'ils gagnent. Alors pourquoi je me dérangerais dès lors ? Tout est entendu d'avance. Je mets signe de manifeste. Pour les martyrs de ceci, le torturé de par-là, vous pouvez être bien tranquille. C'est toujours d'un juif qu'il s'agit. D'un comité youtron maçon, si c'était moi le torturé, pauvre simple con d'indigène français, personne pleurait sur mon sort, il circulerait pas de manifeste pour sauver mes os. D'un bout à l'autre de la planète, tout le monde au contraire serait content. Mes frères de race, les tout premiers, et puis les juifs, tous en cœur. Oh, qu'ils s'écrieraient, dis donc, ils ont eu joliment raison de le faire aux pattes, le Ferdinand. C'était qu'un sale truand vicieux. Un sale hystérique emmerdeur. Faut plus jamais qu'il sorte de caisse, ce foutu vociférant, et puis qu'il crève au plus vite. Voilà ce qu'on dirait pour ma pomme. Le genre de chagrin éprouvé. Moi, je suis bien renseigné, alors j'adhère jamais rien. Ni au Radisco, ni au colonel, ni au Doriotan, ni aux sciences chrétiennes, ni aux francs-maçons, ces boy scouts de l'ombre, ni aux enfants de garches, ni aux fils de pantins, à rien. J'adhère à moi-même. Tant que je peux.
Dorigodon, il y a un certain nombre de prophéties et en même temps d'anathèmes, et l'un de ces anathèmes est porté sur le métissage pris en mauvaise part chez Céline, et notamment sur le plan des croyances. Il dit notamment « toute leur religion, catholique, hébraïque, réformée, franc-maçonne, avant tout, par-dessus tout, Rome ou Rucadet, même credo, métissé, credo absolu ».
Voilà, il me semble que ce que vise à établir Céline, c'est que, d'une façon qui lui paraît, au fond, de plus en plus lumineuse et en même temps inexplicable, il a fait l'unanimité contre lui. Ce que Céline voit, c'est que ces ensembles, qui semblent lutter les uns contre les autres, ne pas être d'accord les uns avec les autres, se bagarrer de façon incessante dans une sorte de miasme mortel pour le pouvoir, ces ensembles ne sont pas en réalité des ensembles contradictoires, mais que par rapport à ces ensembles, il y a une position tout à fait surprenante, qui est celle de l'un exclu, n'est-ce pas ? Et là, il y a quelque chose de très très étrange, dans la mesure où je crois que ce qu'il veut dire avant tout, c'est que l'expérience d'écriture, poussée à un certain degré, déréalise complètement ces fausses perceptions d'ensemble et fait de celui qui s'y plonge, qui s'y risque et qui s'y perd, l'exclu de l'espèce.
Oui, mais cette façon de se poser en exclu, de refuser l'assimilation, d'être rebelle au métissage, s'appuie tout de même sur une conception extrêmement raciste, puisque ce refus du métissage, il le refuse d'abord dans le sang. Il dit d'Henri Godon, le sang des Blancs ne résiste pas au métissage, donc il est assimilé. Il fut créé pour disparaître, sans dominer, Azincourt, Verdun, Stalingrad, la ligne Maginot, l'Algérie, simple hachis, viande blanche. Voilà. Autrement dit, le métissage signifie, au niveau de la race, pour lui, disparition de la race blanche, et de la même façon, le métissage des spiritualités, des croyances ou des cultures signifierait la disparition de la culture dont il se sent un représentant unique, et donc il résiste à cette assimilation.
Je crois pas, je crois qu'il y a une extraordinaire jubilation chez Céline, une jubilation que l'on peut trouver atroce si l'on se sent physiquement justifié d'être, n'est-ce pas ? Si l'on se sent justifié physiquement d'être, alors Céline prend une dimension monstrueuse qui touche à nos résistances les plus profondes. Je crois qu'il y a une extraordinaire jubilation en lui, à l'idée que l'humanité va s'écouler pour en arriver purement et simplement à une sorte de vide. Pour lui, qu'est-ce qu'il sent ? Le monde est toxique. C'est une sorte de maladie. La vie est une maladie. Au fond, c'est un manichéen, si vous voulez. C'est un gnostique qui ne s'avoue pas, mais c'est un mystique. Dans ce sens-là, la réalité en elle-même est mauvaise. Le monde est mauvais, n'est-ce pas ? Il ne peut s'en suivre qu'une lourdeur, qu'un sommeil, qu'un empoisonnement systématique. Alors, la métaphore génétique, à mon avis, n'est pas du tout raciste. Elle est simplement destinée à montrer l'extraordinaire relativité et dérision du maintien des organismes sociaux stables à travers des pays, des nations, des races, etc. Ce qu'il veut faire sentir, c'est qu'il va y avoir un déferlement continu de néant.
Il en viendra bien d'autres d'à travers les steppes, de ces hordes kirghiz, moldofinois, baltorutaines, teutons. Vous les verrez à Pantin, à la porte que vous connaissez, accueillis, je ne vous dis que ça, par de ces foules hurlantes au pinard, au bonheur, à la liberté. Bravo, bravo! Qu'envoyez-vous les jaunes ici? Bientôt, mettons 2-3 ans, tout ce monde communiste, il va de soi, détail, l'important, le sang seul est sérieux. Tous sans dominant, n'oubliez pas. Je lui fais remarquer qu'à Byzance, il s'occupait du sexe des anges au moment où déjà les Turcs secouaient les remparts, foutaient le feu au bas quartier comme chez nous maintenant l'Algérie. Nos grands transitaires vont pas s'en occuper du sexe des anges, ni de péril jaune. Manger qui les intéresse toujours mieux, et vin sorti de ces cartes, de ces menus. Ils sont ou sont pas les maîtres du peuple le plus gourmand du monde, et le mieux imbibé. Mais qu'ils viennent, qu'ils osent, les Chinois. Ils iront pas plus loin que Cognac. Il finira tout sous, heureux dans les caves, le fameux péril jaune. Encore Cognac est bien loin, milliard par milliard, ils auront déjà eu leur compte en passant par où vous savez, Reims et Pernay. de ces profondeurs pétillantes que plus rien n'existe.
Je crois que toutes ces histoires de métissage, de racisme, etc., sont d'énormes provocations pour, en effet, révulser le lecteur, en tant que le lecteur est toujours trop lourd, puisqu'il fait partie de l'espèce humaine, et l'espèce humaine, chez Céline, évidemment, est récusée en tant qu'elle est incarnée d'une façon carnassière. C'est-à-dire qu'il y a pour lui une lutte à mort entre un principe, disons, de danse, de légèreté, d'écoute très fine, et un principe de psychologie, de bouffe, de boisson et de reproduction génétique. Alors ça choque évidemment très fort, mais enfin de ce point de vue, ça n'est pas plus choquant, si vous voulez, que ce qui se dit à longueur de temps chez Sophocle, par exemple, n'est-ce pas ? Bon, à mon avis. Ou dans la Bible, n'est-ce pas ? Qui ne parle que de ça aussi, d'une certaine façon. Alors Rigaudon, vous savez ce que c'est, le titre est très beau. Parce que c'est en même temps une sorte de testament de la part de Céline au niveau de son intention la plus profonde. C'est à la fois une danse, ça, une danse vive, et on sait que pour lui, le langage doit être de la danse avant tout. Et en même temps, c'est un terme quand même militaire, c'est-à-dire que ça consiste à mettre au centre de la cible un fer à rigodon, hein, pour un tireur. Ça veut dire que en un sens, il doit y avoir le comble du mouvement dans le langage qui ressemble à la danse, et en même temps, le fait que le tireur met en plein dans la cible. Et au fond, si vous voulez, qu'est-ce qu'il dit ? C'est assez simple, c'est que c'est un peu Montaigne, mais alors pris par une pulsion beaucoup plus forte, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Eh bien non, là, danser de cette façon-là, c'est apprendre à mourir de façon qu'on arrive à la mort le plus léger possible. C'est une façon de se débarrasser de son corps et de tout ce que les corps des autres vous imposent comme place de ce corps.
Dimension démoniaque ou refus du tragique chez lui ?
Ah, je crois qu'il y a tout. Il y a la dimension démoniaque, il y a le tragique, et il y a le fait de transcender ce tragique par le rire, et tout, n'est-ce pas, comme il y a dans Shakespeare. Enfin, c'est-à-dire, c'est pour ça que la littérature doit plaider coupable. Un écrivain est toujours quelqu'un de coupable. Il y a là-dessus de très belles considérations de bataille dans La littérature et le mal, n'est-ce pas, à propos de Kafka notamment. Un écrivain est coupable, il doit plaider coupable. Céline est coupable, indubitablement, comme tout écrivain.
Il y a eu des sentiments de haine à l'égard de Céline, parce que Céline a lui aussi manifesté des sentiments de haine. Je pense évidemment à toute la période des pamphlets, Bagatelle pour un massacre en 1937, L'école des cadavres en novembre 1938, Les beaux draps en mars 1941. Évidemment, on ne peut pas en rester simplement au terme de ce que les pamphlets ont amené à l'écriture célinienne. Il y a tout de même un contenu. Ce contenu, on peut lire notamment, par exemple, dans L'école des cadavres, le salut réside dans une épuration raciale suivie d'une sélection, sa sécurité dans une alliance étroite avec les frères de race et le seul régime raciste conscient, l'Allemagne. Donc cela en novembre 1938. Dans Bagatelle, donc en 37, il écrit « Demain, tous les charniers du monde débiteront de la viande cachère sur tous les hymnes favoris. J'entends déjà dans la carrière, Blum, bien sûr, proposé de l'Arien en hachis à la Carmagnole. » Il s'est trompé de charnier tout de même. Et également dans Bagatelle, on a conclu, les Juifs, c'est des vampires, des saloperies phénoménales. Faut les renvoyer chez Hitler, en Palestine, en Pologne. Ils nous font un tort immense. On ne peut plus les garder ici. Il faisait allusion, bien sûr, aux Juifs qui, depuis 1933, ont dû quitter l'Allemagne et se réfugier, souvent d'ailleurs en France, ou en tout cas dans des pays occidentaux, pour fuir les persécutions nazies. Alors, les Juifs les renvoyaient à Hitler, est-ce que Céline a été, d'une façon ou d'une autre, l'un des pourvoyeurs des camps de concentration et d'extermination nazis ?
Oui, je crois qu'on peut dire ça. Céline est encore une fois abominable. Il y a dans cette partie-là, très précisément de ce qu'il a écrit, quelque chose qui signe un moment de ce que j'appellerais son délire global. Son délire global comme vérité. Remarquez bien que ce qu'il dit là, abominable comme c'est, dit la vérité de ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Alors que les choses se sont passées, nous le savons, à travers des bureaucrates gentils, tout convenables, qui, un petit sourire en coin, ne prononçant pas ce genre d'énormité, ont fait, eux, le travail. Céline se convulse sur cette affaire. Abominablement, absolument, il n'y a pas lieu de lui trouver la moindre excuse.
Mais t'es antisémite, ma vache ! C'est vilain ! C'est un préjugé. J'ai rien de spécial contre les juifs en tant que juif. Je veux dire simplement truand comme tout le monde, bipède à la quête de leur soupe. Ils me gênent pas du tout. Un juif, ça vaut peut-être un breton, sur le tas, à égalité, un auvergnat, un franc canac, un enfant de Marie. C'est possible. Mais c'est contre le racisme juif que je me révolte, que je suis méchant, que je bouille jusqu'au tréfonds de mon benouze. Je faucifère, je tonitrue. Ils hurlent bien, eux, aux racistes. Ils arrêtent jamais. Aux abominables pogroms, aux persécutions séculaires. C'est leur alibi gigantesque. C'est la grande tarte à leur crème. On me retira pas du tronc qu'ils ont dû drôlement les chercher, les persécutions. Foutre bite. Si j'en crois mes propres carreaux. S'ils avaient fait moi les oifs sur toute l'étendue de la planète. S'ils avaient moi fait chier l'homme. Ils auraient peut-être pas dérouillé. Ceux qui les ont un peu pendus, ils devaient bien avoir des raisons. On avait dû les mettre en garde, ces youtres. Usés, lassés bien des patiences. Ça vient pas tout seul, un pogrom. C'est un grand succès dans son genre, un pogrom. Une éclosion de quelque chose. C'est pas bien humainement croyable que les autres y soient tous uniquement fumiers. Ce serait trop joli!
Là où il voyait, d'une façon tout à fait naïve et bête, car il y a un côté bête chez Céline, tout à fait visible, n'est-ce pas ? Et là où il voyait quelque chose comme un virus à éliminer pour sauver l'humanité, thèse absurde, thèse qui le retient encore dans sa vision fondamentale d'écrivain, parce qu'il croit qu'il y a lieu de sauver, en quelque sorte, quoi ? Eh bien, des communautés, encore une fois, voilà, il n'ose pas, à ce moment-là, aller jusqu'au bout, et il délire de cette façon-là, tout à fait odieuse. Mais alors, le saut, ensuite, à travers, quand même, il faut bien dire... une épreuve de prison et de réflexion d'exil et de réflexion dure, parce qu'il a payé très durement, n'est-ce pas, cette affaire-là. Beaucoup d'autres ont payé beaucoup moins durement, qui avaient le petit sourire ordonné, simplement, de l'harmonie, qui pouvaient se permettre des charniers sans en parler. Eh bien, il a payé, lui, très durement, le fait d'avoir vu le charnier, de l'avoir dit, et de l'avoir en quelque sorte appelé de ses voeux. Hein. Eh bien, il a payé 18 mois de prison, féerie pour une autre fois, etc. Et alors là, quoi ? Eh bien, il ose quoi ? Eh bien, il ose dire qu'il n'y a rien à faire, que l'espèce humaine en elle-même est une erreur. Et à mon avis, c'est là où il devient encore plus coupable, parce que c'est de ce point de vue qu'il faut, je crois, juger l'intention la plus secrète, la plus fondamentale de la littérature, qui est une abomination. C'est bien pour ça que tout le monde s'en défend, que ça n'intéresse personne, et que tout est fait pour la noyer toujours, n'est-ce pas ? Et l'empêcher de parler toujours. Les gens se foutent complètement de la littérature, les pouvoirs doivent, en un sens, l'éliminer ou la censurer le plus possible, et c'est un rapport de force extrêmement violent. Pourquoi ? Eh bien parce que dire ce que ça dit, la littérature, à ce point-là, ça met en cause complètement ce qui existe comme représentation et comme décor de la justification de l'espèce humaine en tant que telle. Alors ça, évidemment, c'est le blasphème absolu.
Au terme de l'instruction de ce dossier, Céline, diable ou martyr ?
Je crois que diable et martyr, c'est même trop dire, parce que ça encore, ça renvoie à la mythologie religieuse. Non, c'est autre chose, c'est l'expérience. Celle d'une formidable leçon d'anatomie et de dissection de l'horreur moderne et de celle qui se poursuit encore sous nos yeux. C'est pour ça que Céline est pour moi quelqu'un qui s'enfonce absolument seul et qui dit à chacun, avec la plus extrême fermeté, que seul il est dans sa disparition. Et c'est pour cela, je crois, qu'on doit, enfin en tout cas moi j'éprouve pour lui, une sorte de compassion infinie.
Un homme, une ville, Céline à Paris avec Philippe Solers par Jean Montalbetti. Cette troisième et dernière émission avec pour thème un héros convulsif de l'horreur moderne, avec la participation de François Gibault et de Frédéric Vitou. Les textes de Rigaudon, de Nord, de Bagatelle pour un massacre ont été dits par Michel Vitold. Prise de son extérieur, Daniel Burguez. Mixage, Michel Ristich. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Ainsi prend fin cette nouvelle série d'Un homme, une ville, donc sur Céline à Paris et à Copenhague avec Philippe Solers. Je vous rappelle que nous allons réaliser des cassettes de cette série de 3 émissions d'une heure sur Céline. Si vous souhaitez les acquérir, vous pouvez nous téléphoner dès à présent et jusqu'à 17h au 524 19 19 ou nous appeler bien sûr en PCV si vous n'êtes pas en région parisienne. Et je vous demande de bien vouloir renouveler votre appel si nos 4 lignes groupées sonnent pour l'instant occupées. Tout au moins au début. Ou bien vous nous écrivez aux après-midi de France Culture, maison de Radio France, 75 786 Paris, Sélec 16. Nous vous adresserons gratuitement une documentation pour les cassettes et aussi une bibliographie sur Céline que nous avons établie à votre intention. Si vous vous intéressez à cette série Un homme, une ville, il y a d'autres séries précédentes qui sont disponibles en cassette. Vous le savez, vous pouvez d'ailleurs en recevoir la liste en nous écrivant. Je vous rappelle simplement le Proust avec Roland Barthes, le Marx avec Jean Hellenstein, le Joyce avec Michel Butor et le Camus avec Jules Roy. Vendredi prochain, une nouvelle série. Pierre Descargues, vous êtes allé à la rencontre du photographe Nadar, qui est peut-être d'ailleurs plus qu'un photographe. Vous allez nous dire, oui, avec le peintre et sculpteur Paul Bury.
Ouais, c'est un trajet assez long puisque Nadar a vécu 90 ans et que, au fond, il passe du royaume à l'empire et finit dans la République. Et tout au long de sa vie, c'est un républicain fervent qui essaye de survivre à travers tous les régimes. Donc 90 ans de vie, essayer de comprendre ce qui fait l'unité de cet homme assez stupéfiant, puisque Nadar, bien sûr, Félix Tournachon d'abord, il s'appelle Félix Tournachon, dit Nadar. Nadar, c'est d'abord un écrivain, et il a laissé au minimum une dizaine d'ouvrages. C'est aussi un dessinateur, on peut calculer des dizaines de milliers de dessins, de caricatures dans les journaux. C'est aussi un photographe. Alors là, la maison Nadar, c'est 300 000 clichés. C'est énorme, dont il a fait au moins lui-même une trentaine de milliers. Et puis, c'est un des premiers seigneurs du ballon, puisque on sait qu'il a réalisé de très grands vols, en particulier avec le géant. Alors, donc, avec Paul Bury, et puis les biographes de Nadar, Roger Grives, qui vient de publier un ouvrage important, Philippe Néagu, Jean-Jacques Poulet-Alamany, et puis un aéronaute, Olivier Roux de Villas, on a essayé de faire le tour de cet homme proté que fut Nadar, Félix Tournachon.
Donc vendredi prochain, Un homme, une ville, Nadar avec Paul Bury et Pierre Descargues à partir de 14h45. Parlons du programme de lundi. À 15h lundi, il y aura un centre de gravité. C'est un centre de gravité de 100 minutes. Son thème, droit de l'animal et devoir de l'homme, c'est un dossier que préparent actuellement Dominique Rousset et Paul Braham. En fait, Dominique Rousset nous présentera une enquête sur les rapports de l'homme et de l'animal avec des reportages dans des élevages en batterie, dans des abattoirs, également dans des refuges d'animaux abandonnés, et cela en période de vacances. À titre d'échantillon, écoutons en avant-première ce petit document dans un élevage en batterie de 12 000 poules pondeuses en région parisienne.
Nous sommes au début d'une très très longue ligne On aperçoit une multitude de têtes, toutes les poules dont seules les têtes dépassent. Hein.
Les poules sont sont au nombre de 5 par cage, c'est-à-dire que la cage fait 50 cm de large, ce qui est très important. Hein. Voyez-vous, 10 cm chacune et une profondeur de 0,45 m. Devant elle, une mangeoire qui est alimentée 6 fois par jour par un chariot d'alimentation automatique. Et derrière se trouve un tuyau dans lequel sont branchés des abreuvoirs pour l'eau, afin qu'elles aient toujours de l'eau d'une façon parfaitement propre et une nourriture qui est à base de maïs, 60% de maïs produit sur l'exploitation, du tourteau de soja, de la farine de luzerne déshydratée et un petit peu de carbonate de chaux pour la solidité des coquilles.
Voici, nous retrouverons donc ce document dans la première partie du Centre de Gravité sur Droits de l'animal et Devoirs de l'homme de 15h à 16h. Ensuite, à partir de 16h, il y aura un débat contradictoire, je pense, avec Pierre Micot, le chargé de mission sur la condition des animaux, également le docteur Danzer de l'IRA, Georges Heuse, président de la Ligue internationale des droits de l'animal, Madame Gilardoni de l'œuvre d'assistante bête abattoir, également participeront deux vétérinaires, ainsi que l'intervention d'un éleveur. Un éditorial aussi, toujours dans ce même dossier qu'on entendra à partir de 15h, un éditorial important, celui d'Alfred Kessler, prix Nobel de physique, qui prendra position sur ce sujet. Et à 16h50, l'actualité sera sur les nouveaux textiles, avec Michel Sauton, qui est le directeur du laboratoire de l'Institut Textile de France à Boulogne-Billancourt. C'est une actualité qui nous sera présentée par Ruth Scheps. Voilà, notre après-midi de France Culture est terminé. Au revoir et merci de votre écoute attentive, comme nous le prouvent vos nombreuses lettres et vos appels téléphoniques sur le 524 19 19, où nous restons en ligne avec vous jusqu'à 17h. Bonne fin de semaine, à lundi 14h45 pour un nouvel après-midi de France Culture. Bonjour, Jean Montalbetti, l'équipe de France Culture vous souhaite une très bonne journée en ce vendredi 18 juillet. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h en compagnie de Michel Ristich et Marie-Dominique Bougot pour la collaboration technique d'un programme réalisé par Christine Bernard-Sugy. Depuis deux semaines, nous sommes chaque vendredi après-midi à la recherche de Louis-Ferdinand Céline en compagnie de Philippe Solers pour cette nouvelle série de l'émission « Un homme, une ville ». C'est donc aujourd'hui au troisième et dernier itinéraire Céline que nous vous invitons. Après avoir retrouvé les lieux céliniens du passage Choiseul, de Clichy, de Montmartre, et puis ceux de l'exil au Danemark de 1945 à 1951, nous passerons cette dernière heure à Meudon pour évoquer la trilogie romanesque qu'il y écrivit à son retour en France et pour tenter de discerner la portée de l'œuvre célinienne. Nous interrogerons à ce propos deux spécialistes, François Gibault, qui a entrepris une vaste biographie de Céline, et Frédéric Vitoux, qui a étudié le langage célinien et sa création romanesque. Donc de 14h50 à 15h55, dernière évocation de Céline à Paris, un héros convulsif de l'horreur moderne. À 15h55, pour notre dernier contact de la semaine, nous vous parlerons des programmes des après-midi de France Culture que vous pourrez entendre dès lundi. Et jusqu'à 17h, nous attendons vos appels sur le 524 19 19 pour vos questions, vos demandes de bibliographie. Il y en a une, je vous le signale, à votre disposition sur Céline, et vos demandes de documentation pour les cassettes. Vous pouvez aussi nous écrire aux après-midi de France Culture, maison de Radio France, 75 786 Paris CEDEC 16.
Ils ont eu joliment raison de le faire aux pattes, le Ferdinand. C'était qu'un sale truand vicieux, un sale hystérique en merdeur. Faut plus jamais qu'il sorte de caisse, ce foutu vociférant, et puis qu'il crève au plus vite. Voilà ce qu'on dirait pour ma pomme, le genre de chagrin éprouvé. Moi, je suis bien renseigné, alors j'adhère jamais rien. Ni au Radisco, ni au colonel, ni au Doriotan, ni aux sciences chrétiennes, ni aux francs-maçons, ces boy scouts de l'ombre, ni aux enfants de Garches, ni aux fils de Pantin, à rien. J'adhère à moi-même, tant que je peux.
Un homme, une ville, Céline à Paris avec Philippe Solers, par Jean Montalbetti et Christine Bernard-Sugy. Troisième émission, un héros convulsif de l'horreur moderne.
Ça viendra le moment du repos. J'aurais mérité. Indigne. Plus qu'indigne. Traître. Patati. Personne m'empêchera ma mort.
Avril 1951, le tribunal militaire de Paris, appliquant la loi d'amnistie, décharge Louis-Ferdinand Céline de toute condamnation. Il avait été jugé par contumace en février 1950 et condamné à un an de prison, à 50 000 francs d'amende et à l'indignité nationale. L'exilé de Corsore va pouvoir rentrer en France après 7 ans d'absence. Il est à Menton en juin et de retour à Paris en juillet 1951. Désormais, il lui reste 10 ans à vivre jusqu'au samedi 1er juillet 1961. Sa femme, Lucette Destouches, nous a dit « Il est revenu en France pour mourir ». Le vieillard, malade et gris, s'installe dans un pavillon banlieusard sur la colline de Meudon. Retranché de la société de ses semblables, gardé par ses chiens-loups, il prend de plus en plus figure de misanthrope malgré la poursuite de son activité de médecin des pauvres. Le forcené de Meudon est aussi un forcené du langage, le langage son arme totale. Il y a encore suffisamment d'énergie dans ce corps délabré, secoué de spasmes et de vertiges, pour écrire les chefs-d'œuvre que sont la trilogie D'un château l'autre, Nord et Rigaudon. En même temps, cet échappé de l'enfer est en train de devenir, ou de redevenir, à la fin des années 50, l'une des voix majeures de ce siècle. Grâce à Roger Nimier, il va entrer de son vivant dans la bibliothèque de la Pléiade, pour les deux romans de l'avant-guerre du moins. C'est le moment de s'interroger avec Philippe Solers sur la portée de l'œuvre célinienne. Pas avant d'avoir remis nos pas dans ceux de Louis-Ferdinand Céline en compagnie de son biographe François Gibault, dans les allées du jardin de la Route des Gardes à Meudon, où Lucette Almanzor donne encore aujourd'hui des cours de danse rythmique.
Costaud et un petit maigre, les voici. Je boucle les chiens dans leur enclos. Que ces deux jeunes hommes aillent pas après tout se vanter que j'ai ces livrets, mes fauves. Ces deux jeunes hommes, le gros et le maigre, sont acnéiques, pas très propres, soignés. Ils ont la laine forte, l'air buté, je dirais fermé, convaincu, pas discutable. Je n'ai aucune envie. Ils ont voulu venir, ils sont là. Alors.
Madame Destouches, elle n'est pas là, il vient de partir il y a 5 minutes.
Ah bon?
François Gibault, nous sommes donc dans la maison qu'habitait Céline avec Lucette Destouches entre 1951 et 1961. Cette maison a beaucoup changé depuis la mort de Céline?
Oui, cette maison a changé à la suite de l'incendie de 1968. La maison est à peu près restée la même jusqu'en 68, et puis en mai 68, la maison a brûlé, et depuis, la disposition des pièces a été changée, et ce n'est plus du tout la maison qu'a connue Céline.
Alors nous commençons par le troisième niveau, c'est-à-dire nous sommes
dans l'ancienne salle de danse que Lucette avait transformée en cours de danse, qui est la pièce la plus vaste de la maison, et qui est maintenant sa chambre. de laquelle on voit
trois grandes baies
sur Paris. Une merveilleuse vue sur Paris. Une vue qui a changé aussi, il suffit de voir les immeubles modernes qui
sont
construits.
On a la Seine au premier plan.
Oui, et Renault.
Et puis l'île Seguin avec les bâtiments de Renault.
Renault, et si on se penche, on voit la Tour Eiffel à droite.
La maison est un peu en contrebas par rapport au jardin.
La maison en contrebas, c'est une maison très humide, très difficile à entretenir parce qu'il y a des ruissellements d'eau. Et...
Il y a de beaux arbres, des cèdres.
Oui, il y a de très beaux arbres. Là, il y a deux cèdres et...
Vous avez une végétation de lilas.
Végétation de lilas. Alors là, vous avez des tas de petits arbustes qui correspondent sans doute chacun à un animal. Parce que l'usage ici, quand Bébert est mort, par exemple, on l'a enterré ici dans le jardin.
À quel endroit ?
Et on plantait immédiatement un petit arbre. Alors je ne peux pas vous dire sous lequel se trouve Bébert, mais en principe, à chaque arbuste correspond à un animal. Ce sont des tentes d'animaux.
Il y en avait combien au moment
Il y en a eu beaucoup. Il a ramené au moins 3 chats du Danemark et un chien, un seul chien. Et puis
Don
ensuite...
Bébert qui est mort tout de suite après le retour,
qui est mort
pratiquement,
peu après,
début 52.
Ah oui, il était très vieux, Bébert. Puis il avait une vie très agitée, très éprouvante. Et ensuite, Céline a adopté des chats, des chiens, des animaux. Il a eu des quantités, il a eu des hérissons, il a eu des quantités d'animaux ici.
Les chiens, c'était des bergers allemands.
Les chiens, c'était des chiens qu'il allait chercher chez la mère Annet à côté. C'est une femme qui a un refuge d'animaux, alors il y allait de temps en temps.
Ah, c'était des chiens abandonnés.
Oui, et il ramenait des chiens. Et encore maintenant, il y a toujours eu ici beaucoup de chiens recueillis. Actuellement, vous avez 5 chiens ici, vous avez pu voir. Vous avez 5 chiens, il y avait un chat qui est mort depuis peu, et puis beaucoup d'oiseaux toujours, c'est là, c'est l'usage.
Je m'ouvrais tout récemment un petit pote à moi, un bon petit médecin dans mon genre, en mieux, Léo Gutmann, de ce goût de plus en plus vivace, prononcé, virulent, que dis-je, absolument despotique, qui me venait pour les danseuses. Je lui demandais son avis. Qu'allais-je devenir, moi, chargé de famille? Je lui avouais toute ma passion ravageuse. Dans une jambe de danseuse, le monde saison de tous ses rythmes. Ses folies, ses voeux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant Gutmann, tout le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse, en mouvant équilibre est en ligne Gutmann. C'est Dieu, lui-même, tout simplement, voilà le fond de ma pensée.
Ici, il y a une salle qui n'est pas une salle de danse, qui est une salle de gymnastique, et c'est l'étage où vivait Madame Destouches. Vivante Céline, elle avait sa chambre, sa salle de bain, et cette petite pièce que vous voyez qui servait de salle de gymnastique. Puis quand, après l'entraînement de gymnastique, les élèves montaient pour... le cours de danse. Alors évidemment, Céline entendait de l'étage en dessous, il entendait les bruits de castagnettes, la musique, les élèves et les instructions données par Lucette, qui raconte du reste plusieurs circonstances, plusieurs livres.
Ici, c'est le premier étage, ou le premier niveau un peu surélevé par rapport au jardin.
Céline vivait essentiellement ici, qui est un rez-de-chaussée surélevé. Il avait ici, quand il faisait beau, il sortait. Il y a des photos de lui qui sont prises ici. Il recevait, quand il faisait beau, certains amis. Il y a des photos d'Arletty, de Michel Simon qui sont prises dans cette petite cour. De Parras aussi, enfin un certain nombre d'amis.
Elle a été transformée
C'était le début du jardin. Il y avait un ou deux bancs sur lesquels il se trouvait là avec ses animaux. Il y a des photos de lui avec Toto également.
Est-ce qu'on venait beaucoup le voir? On a toujours l'impression qu'il était un petit peu séquestré.
Il mettait les gens volontiers à la porte. 61. Et en définitive, il y avait quelques vieux amis qui sont venus, dont certains régulièrement, comme Marcel Aimé, qui venait tous les dimanches matins, par exemple. Il y a eu longtemps Dubuffet qui venait aussi, tous les gens Dubuffet, le peintre qui venait aussi tous les dimanches matins.
Il réunissait plusieurs amis dimanche matin ?
Non, séparément.
Il venait individuellement.
Et Marcel Aimé est venu du reste jusqu'à la fin de sa vie ici tous les dimanches matins, car même après la mort de Céline, il a continué à venir voir Lucette.
Et pourtant Marcel Aimé était un homme très silencieux.
Oui, je crois qu'il ne parlait pas. Il laissait Céline parler, il ne disait rien. Très souvent, je crois que Céline l'engueulait, et puis Marcel Aimé rentrait chez lui, pour être très exact, à l'heure du repas. Du reste, Céline a raconté ça d'Henri Godon. Alors ici, nous sommes dans la pièce où Céline a vécu, qui est une pièce qui donne donc sur l'usine Renault, qui donne sur la Seine, où il avait, dans cette pièce, un lit de repos, sa table de travail, surtout, c'est là qu'il avait
installé... Et de grandes fenêtres, c'est une pièce claire.
Oui, c'est une pièce claire. C'est une des pièces les plus saines de la maison. Il avait installé là sa table de travail. Il y avait des ficelles sur lesquelles pendaient les manuscrits en cours attachés par des épingles à linge. Et puis, il y avait là sa bibliothèque, qui était une bibliothèque en acajou du 19e siècle, dans laquelle, du reste, il y avait essentiellement une bibliothèque médicale. Et tout ça a disparu au moment de l'incendie.
Sur un plan littéraire, comment était-elle composée, cette bibliothèque ? Nous avons retrouvé quelques livres au Danemark, dans les rayonnages des maisons qu'il a habitées à la Fondation Michelsen.
Chaque fois que je suis allé, j'en ai retrouvé, et notamment certains, dont un livre de Nimier qui lui était avec une très très belle dédicace que j'ai reproduite dans la biographie.
Et dans sa bibliothèque de Meudon ?
Dans sa bibliothèque de Meudon, le souvenir que j'en garde, ce sont uniquement des livres de médecine. Il n'y avait pas de romans, il n'y avait pas de livres littérature.
Cette pièce a énormément changé. Tout a brûlé en 1968.
Oui, tout a brûlé. C'était une vieille maison, il y avait beaucoup de bois, et tout a brûlé. Et comme l'escalier est tout proche, ça a servi de cheminée. Le toit a volé aussi. Et pratiquement, cette pièce a été entièrement ravagée par l'incendie.
Et l'incendie a détruit beaucoup de documents, Céline, de manuscrits.
Alors, l'incendie a détruit des manuscrits qui se trouvaient dans le bas de cette bibliothèque, dans la pièce où nous nous trouvons. Je ne peux pas dire, du reste, j'en avais pas fait l'inventaire, je ne peux pas dire exactement ce qui a été brûlé. Il y avait certainement des lettres, des correspondances. Heureusement, à ce moment-là, le manuscrit de Rigaudon se trouvait chez moi. Il a été dans cette pièce très longtemps, et il a été... Comme nous avions terminé de mettre au net le manuscrit, je procédais à une dernière relecture et je l'avais emmené chez moi. Donc il a été sauvé de l'incendie.
Incendie accidentel ou incendie criminel ?
Oh, je pense à un incendie accidentel. Le fait que ça se soit produit en mai 68, c'est une coïncidence.
Dans la pièce centrale, c'était donc son lieu de travail,
oui,
son bureau.
C'était son lieu de travail.
Et la pièce qui suit, qui est actuellement une cuisine.
C'était sa chambre.
Qui également donne sur Renault,
sur la Seine. C'était sa chambre.
C'était sa chambre. Oui. Donc il vivait vraiment entre ces deux pièces.
Ah oui, il vivait entre ces deux pièces et puis il descendait au sous-sol où se trouvait la cuisine, où il allait se faire son thé le matin et où il vivait. Il faisait la pâtée des chiens. Vous préparez de temps en temps un peu de cuisine pour Lucette qui ne la mangeait pas du reste.
Et c'est dans cette pièce qu'il est mort.
Et c'est dans cette pièce qu'il est mort, oui. Son lit était un grand lit qui était là le long de la fenêtre. Et le matin, il s'est senti mal. Il a refusé l'assistance d'un médecin. Lucette a voulu appeler un médecin. Il a dit non. Il a beaucoup souffert de la chaleur dans la journée. C'était une chaleur torride.
C'était le
1er juillet. Et à la fin de la journée, quand Lucette a appelé un médecin, elle est descendue à un moment d'une leçon qu'elle donnait. Elle s'est rendue compte qu'il allait très mal. Elle a appelé le docteur Villemin, qui était un de ses amis. Et quand il est arrivé, il était mort.
Sa mort a été tenue secrète pendant plusieurs jours. Pour quelle raison ?
Sa mort a été tenue secrète parce que... Bon, je pense que c'est le vœu qu'il avait peut-être exprimé. En tout cas, c'était le souci de Lucette Destouches. Elle trouvait très malsain qu'une publicité soit faite autour de cet événement. Les journalistes ont été prévenus le jour même de l'enterrement, de telle façon qu'il n'y en avait pratiquement pas. Au moment de l'enterrement, il n'y avait que les intimes. Il y avait Marcel Aimé, il y avait la fille de Céline, il y avait Arletty, il y avait un certain nombre de très très bons et très vieux amis. Et c'est...
Vous êtes ici depuis combien d'années dans ce cimetière de Meudon ? C'est le vieux cimetière de Meudon, il y en a deux maintenant. Vous êtes ici depuis combien d'années?
Moi, je suis là depuis 58. Hein.
Oui. Et vous avez connu le docteur Destouches de son vivant, ici à Meudon?
Ah non, pas, non, non. J'ai d'entendre parler, oui, mais pas autre chose.
La tombe est très simple. Hein. C'est une,
oui, ça, simplicité,
une pierre de grès.
Simplicité complète.
Et il y a, curieusement, il y a une croix qui est gravée,
oui,
dans le grès. Il y a un bateau à voile. Pourquoi un bateau à voile?
Je l'ignore.
Et puis il y a l'inscription Louis-Ferdinand Céline, docteur L.F. Destouches, les dates 1894-1961. Et très curieusement, il y a une deuxième inscription, Lucie Destouches, née Almanzor, 1912, et puis 1900, et la date est incomplète. C'est courant ici?
Très courant. Vous avez beaucoup de personnes qui restent seules qui font cette opération.
Mmh. Et bien là, il y a des pierres qui ont été déposées, des silex. Il y a même un petit pot qui contient plusieurs pierres. Il y a beaucoup de visiteurs?
Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent voir la tombe de Monsieur Céline. Tous sont une majeure partie des étrangers et beaucoup de jeunes Français. Mais la jeunesse.
Philippe Salers, vous êtes méditatif là au-dessus de la tombe de Céline. Quelle est votre première réaction?
Ah ben évidemment, c'est très bizarre de voir à quel point cette tombe ressemble peu aux autres. Jusque à la pierre tombale, l'écriture de Céline se manifeste par quelque chose qui repousse alors tout le reste dans le stéréotype. C'est-à-dire que la présence quand même de ce bateau, toute voile déployée, sur une pierre tombale est quand même assez intéressante. On pourrait dire qu'il a là le statut d'une sorte de marin, mais ou de corsaire en quelque sorte, hein, de frère de la côte. Il n'y a pas le drapeau à tête de mort et tibia croisée, mais on pourrait dire quand même qu'on peut l'apercevoir malgré la croix qui en haut à gauche sanctifie un tout petit peu la chose de telle façon à ne pas choquer trop l'entourage de ces morts en sursis qui sont là sous le signe d'une résurrection tout à fait hypothétique.
Sur cette tombe, il y a la présence des deux personnages,
oui,
qui ont été constants.
Ça, c'est très intéressant.
C'est-à-dire tout de même priorité donnée à l'écrivain, oui, Louis-Ferdinand Céline, et la présence derrière, immédiatement, du médecin. Docteur L.F., initial pour le prénom seulement, mais docteur en toutes lettres, Destouches.
C'est ça. Donc, le marin, la tribulation, l'errance, quelque chose qui rappelle un peu Moby Dick ou les aventures d'un marin perdu comme ça dans la navigation.
Et les aventures de l'Afrique noire.
Oui, oui, c'est ça. Et puis docteur. C'est un docteur, c'est un marin. Et puis, sa femme avec lui. Tout ça est très décidé, hein, sans aucune fioriture et sans fleurs, comme vous l'avez remarqué. C'est-à-dire ce geste assez touchant de pierre qu'on pourrait imaginer pris sur une plage, ici ou là, et apporté par les gens. Oui.
Il y a un très grand dépouillement qui correspond également à une certaine pauvreté de tout ce qui nous entoure ici. La laideur de ces pavillons que l'on voit ici à Meudon, la présence de la voie ferrée que l'on a vue exactement en contrebas du cimetière, des avions qui tournent, on est visiblement sur... Une ligne de parcours de l'aviation. Enfin, c'est une banlieue pauvre, assez misérable. Hein.
C'est la misère, en effet, continentale de ce qui...
Il nous rappelle Clichy, les débuts de sa vie professionnelle.
On n'en sort pas, c'est-à-dire qu'on est dans le degré zéro de la culture continentale française, refermée sur elle-même, dans le village, dans ce qui ne sort pas de la famille, du caveau de famille, de la famille en caveau depuis toujours, n'est-ce pas? Famille, machin, famille, truc, famille, 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 non pas je vouais, mais enfin, famille est en train de mourir les unes sur les autres. Ça, c'est tout ça, c'est un spectacle évidemment terrifiant, surtout quand on pense qu'un écrivain est par définition quelqu'un qui traverse ça et qui n'en veut pas.
Nous avons été voir sa tombe au cimetière de Meudon, elle est extrêmement sobre, belle.
Oui.
Qu'est-ce qui explique la présence de la croix? Et d'autre part, de la caravelle.
Eh bien, la présence de la croix, parce que mon Dieu, Céline avait été baptisé, qu'il était catholique. Et il avait sa foi à lui, une espèce de foi du charbonnier qui
qu'il a exprimé. Du reste, dans certaines lettres au pasteur Lochen, vous savez que le pasteur protestant à Copenhague, lui, est venu à son secours. Et là, c'était un homme admirable, c'est un saint. Il vit toujours, du reste, et c'est un homme qui vraiment lui a tendu la main au moment des époques les plus difficiles de sa vie. Et il y a des lettres au père Lochen dans lesquelles il dit que qu'il admire le père Lochen, qu'il considère comme un homme de Dieu, et dans lesquels il dit que moi, vous savez, j'ai une foi un peu... J'ai la foi du charbonnier, j'ai la foi que j'ai appris quand j'étais enfant, et puis depuis, j'ai fait mon chemin. Et puis il y a un bateau, ça c'est une idée de Lucette Destouches, et qui est excellente. Céline adorait les ports, il adorait les bateaux, il adorait tous les mouvements des ports et de la mer. Je trouve l'idée très belle d'avoir pensé à lui graver un bateau sur sa tombe pour son dernier voyage. C'était certainement tout à fait, en tout cas dans l'esprit de Ferdinand Céline, qui était breton, qui était marin, qui se disait celte, et qui suffisait qu'il y ait un port ou un coin d'eau qui bouge ou un bateau qui parte pour qu'il tout de suite il soit gagné par l'émotion. Ça. Il y a peut-être aussi, vous avez vu, des pierres qui sont...
C'est une habitude hébraïque, ça.
Pierres, je déposer ne sais pas si c'est une habitude hébraïque. Oui, on voit ça aussi chez les musulmans, je crois. Lucette Destouches, ce sont des pierres qu'elle rapporte de Dieppe, qu'elle a rapportées de Dieppe. Elle a un appartement à Dieppe, il y va rarement, mais en revenant, comme il aimait beaucoup Dieppe, elle lui rapporte des pierres. Je trouve aussi le geste très bon, particulièrement significatif. Au lieu de lui rapporter une fleur, elle lui rapporte une pierre.
On l'imagine ici un peu comme un séquestré, et tout de même avec ces arrivées parfois intempestives du monde extérieur, notamment la personne des journalistes qui viennent de temps en temps soit le solliciter par téléphone ou bien sonner à sa porte, et pour lequel il manifeste beaucoup de mauvaise humeur dans Rigaudon.
Mais c'était un ermite qui se tenait au courant des événements du monde. Il reste dans Rigaudon, il y a sans arrêt des retours en arrière, n'est-ce pas ? Il quitte son sujet pour venir parler un peu de l'actualité. Ce sont du reste, à mon avis, de très bonnes pages. Et pendant son séjour au Danemark, il s'est toujours également tenu au courant. Alors là, difficilement, parce qu'il ne trouvait pas de journaux français. Mais on lui envoyait des journaux et il écoutait un méchant poste de radio. Quand il voulait bien marcher, il arrivait à capter les émissions en langue anglaise et il se tenait donc au courant des événements du monde.
Il était sensible, au cours des dernières années, à l'intérêt qu'on portait à nouveau à son œuvre littéraire.
Vous savez, pendant des années, on n'a vraiment pas parlé de Céline, hormis quelques articles ici et là.
C'est-à-dire à peu près pendant 10 ans, entre 45 et 55.
Oui, le réveil, c'est 49-50. Les premiers articles, il y a eu toute une série d'amis de Céline qui se sont démenés pour faire parler de lui, notamment Albert Parras, qui a tout de même été... Le premier combattant, le premier à le faire sortir de l'oubli et de l'indifférence. Et ensuite, quand il a été à Meudon, quand il a publié D'un château l'autre, alors la critique est repartie et les gens ont compris qu'il avait trouvé une nouvelle veine d'inspiration qui était née des événements de la guerre. En réalité, Céline, toute l'œuvre de Céline est faite sur des événements qu'il a vécus. J'ai interviewé pour mon livre beaucoup d'habitants de Sigmaringen et tous disent que le seul à avoir vraiment raconté Sigmaringen, malgré tout l'aspect fantastique de l'œuvre d'un château lourd, malgré toute la démesure célinienne, le seul qui ait vraiment restitué l'ambiance de Sigmaringen, c'est Céline.
Racontez les faux gâteaux de Sigmaringen, plus plâtre que farine. M'en veuillez pas si je vous raconte, tout en désordre, la fin avant le commencement. Belle histoire, la vérité seule importe. Vous y retrouverez, je m'y retrouve bien. Un peu de bonne volonté, c'est tout. Regardez un tableau moderne, vous donnez un peu plus de mal. Pas tellement exorbitant de vous représenter les veuves de guerre en pleine cure, sur alimentation par tarte, petit four, feuilleté aux fraises, cafetière de chocolat crémeux, pas difficile. Toutes les bouches pleines, dégoulinantes, pour sortir les difficultés, les portes à tambour, il fallait que les garçons les poussent, toutes ces dames un peu endormies. qu'elles aillent échouer ici, là, dans le parc, un banc, l'autre, rotante, songeuse, encore bien des heures digérantes. Les coupiers, eux, s'amusaient pas. Ils n'avaient pas le temps de toucher au petit four, bagnard des jetons. Par ici la monnaie, le 5. En plus, ils dressaient leurs élèves, chacun un. Le tabouret à côté de lui, mutilé, choisi, cul de jatte et en uniforme. Pas de temps à perdre. Rééducation du grand mutilé. Qu'il apprenne prompt le lancer de boule et ratissage. 5, 3, 4. Les jeux sont faits. La tradition Baden-Casino date pas d'hier. Berlioz y a joué, Elitz, et tous les princes Romanov, et les Naritskine, et les Savoie, Bourbon et Bragance. Nous, forcément, on faisait intrus. Nous, dont aucune grève d'Europe voulait. Enfin, c'était un opéra genre comique. En spectateur, vous pouvez tout. L'histoire passe, joue, vous êtes là, je vous raconte.
François Gibault, comme biographe de Céline, vous êtes en train de reconstituer un petit peu les événements réels, vécus de la vie de Céline. On peut se demander, évidemment, quand on lit notamment les trois romans de la trilogie, on peut se demander quelle est la part de réalité vécue et en même temps la part d'imagination, de délire de l'écrivain qui reconstruit un petit peu ce qu'il a vécu a posteriori.
Bien, comme dans tous les livres de Céline qui sont autobiographiques, hormis les pamphlets, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que vous avez toujours un élément vrai, puis ensuite il est transposé, il est grossi, il est transformé par Céline, qui a écrit ses livres plusieurs années après avoir vécu les événements, et qui a peut-être fini par croire qu'ils se sont passés tels qu'il les a racontés. Et l'exemple le plus frappant pour moi, c'est le voyage de Sigmaringen à Copenhague, qui a été raconté d'Henri Godon. Céline, à tous ses amis, a toujours écrit que le voyage avait duré 3 semaines et qu'il avait été fait entre les 4 armées, n'est-ce pas, et pratiquement sous le feu des 4 armées, qui étaient les armées alliées, et que ce voyage avait été effectué à pied. Or, j'ai eu le bonheur de retrouver un homme qui est mort maintenant et qui a fait le voyage avec Céline. C'était son infirmier de Sigmaringen. Il l'a accompagné de Sigmaringen jusqu'à Flensbourg, à la frontière danoise, et qui est revenu ensuite à Sigmaringen. Or, cet homme avait noté sur un petit papier les heures d'arrivée dans les gares, les noms des gares, les heures des départs. Et il m'a donné ce papier. Donc, je sais exactement que ce voyage a duré 3 jours, 3 jours et demi. Mais ensuite, un phénomène de distorsion s'est fait dans l'esprit de Céline, et il a raconté l'affaire, comme vous savez, d'Henri Godon. Ça a été un voyage très dur, ils avaient des bagages, ils en ont perdu, ils ont été bombardés, ils avaient du mal à se nourrir. Ce sont 3 jours et demi pendant lesquels ils n'ont pratiquement pas dormi. Ce n'était pas du tout un voyage de plaisir, ça a été un voyage extrêmement pénible. Il est arrivé dans un état d'épuisement complet à la frontière danoise. Et alors ce monsieur qui a voyagé avec eux avait gardé l'Ausweis, n'est-ce pas, l'autorisation qui revêtue des cachets de la police de Copenhague et des autorités qui ont donné ce... Et cet homme avait gardé dans son portefeuille ce document comme souvenir, et il était atteint d'un cancer, il savait qu'il allait mourir, et il me l'a donné à l'hôpital où je lui ai rendu visite. C'est un document très émouvant, je dois dire.
Pour le moment, je préfère encore écrire en français. Je trouve l'anglais trop mou, trop délicat, trop chauchote. Mais s'il le fallait... Et puis les juifs anglo-américains me traduisent régulièrement, haute raison, et me lisent. Nous ne sommes pas très nombreux parmi les auteurs français de la classe internationale. Voilà le plus triste. 5 ou 6, je crois, tout au plus, qui pouvons étaler. C'est peu, beaucoup trop peu. L'invasion à sens unique, cela me gêne. Les éditeurs judéo-anglo-saxons très au courant des choses de la fabrication littéraire les reconnaissent, les romans standards. Ils en font fabriquer d'exactement semblables tous les ans par milliers chez eux. Ils n'ont que faire de répliques, s'embarrasser d'autres postiches. Personnellement, il me serait possible, sans doute, de me défendre encore pendant quelque temps, grâce à mon genre incantatoire, mon lyrisme ordurier, vociférant, anathématique. Dans ce genre très spécial, assez juif par côté, je fais mieux que les juifs. Je leur donne des leçons. Ça me sauve. Je passe chez les juifs des États-Unis pour esprit fort. Pourvu que ça dure.
Frédéric Vitou, vous avez publié en 1973 un essai sur le langage célinien, également les personnages dans l'œuvre de Céline. Louis-Ferdinand Céline, Misère et Parole. Vous avez également écrit un petit livre sur l'épopée du chat Bébert. Et vous avez fait un dossier, Louis-Ferdinand Céline, publié aux éditions Belfond. Vous êtes donc devenu un spécialiste de Céline, et pourtant vous appartenez à une génération qui n'a pas connu Céline.
Oui, c'est peut-être justement parce que je n'ai pas connu Céline que je n'ai pas subi à la fois les enthousiasmes et les déceptions de toute une génération, et que, voyant Céline, non pas avec indifférence, mais peut-être avec plus de sérénité, j'ai été à même d'en parler. Moi, j'ai commencé personnellement à lire Céline dans les années 60 avec D'un château l'autre, qui est le livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un livre qui était totalement en rupture avec tout ce que je pouvais lire à côté. Les romans qui étaient dans les bibliothèques familiales, les Mauriac et autres. Par contre, dès l'instant où j'ai voulu, sur un plan universitaire, m'intéresser à Céline, alors il n'était plus question du tout d'un château l'autre, car d'un château l'autre, c'était le Céline de la dernière période, donc le Céline d'après les pamphlets, d'après la guerre, le Céline maudit, le Céline complètement interdit. Et environ, pour situer une date, en 68-69, donc, lorsque j'ai voulu, sur un plan universitaire, consacrer une thèse à Céline, qui était à l'époque un terrain pratiquement vierge. Il n'y avait pratiquement rien sur un plan universitaire et très peu de choses sur un plan de publication. Il n'y avait eu qu'un ou deux livres parus jusqu'alors sur Céline. La consigne a été très stricte dans l'université. Pas question de parler du Céline d'après la guerre. C'était le Céline maudit, le Céline interdit, le Céline par conséquent sans talent. Ça peut paraître ahurissant pour une œuvre aussi homogène que celle de Céline, avec une évolution, bien sûr, toujours permanente, mais en même temps c'est une œuvre, c'est une recherche globale. Comme Proust, si l'on veut. Il fallait parler donc du Céline d'avant la guerre, du Céline des deux grands romans, au fond, des romans les plus classiques, les plus rassurants, finalement, qui sont Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Donc, pour l'université, pour faire une thèse de doctorat troisième cycle, concrètement, à Vincennes et à Nanterre, en 68-69, on ne parlait que de Voyage et que de Mort, un point, c'est tout.
Aujourd'hui, quel a été le changement ?
Écoutez, je crois que maintenant, je dirais que la cause est complètement gagnée, non seulement en France, bien sûr, où maintenant, c'est le contraire. J'ai l'impression que les thèses se multiplient à une vitesse ahurissante sur Céline. On étudie tous les aspects. Vraiment, une sorte de... Je dirais, non, je n'aurais pas... polémique, mais enfin, disons que, par exemple, que l'appareil universitaire a sorti toutes ses griffes pour récupérer, digérer, dévorer Céline, le mettre en fiche, en ordinateur. Des universitaires d'Australie, de Tchécoslovaquie, d'Italie se réunissent régulièrement pour parler doctement de Céline. Vraiment, Céline.
Mais de France aussi.
De France aussi, bien sûr. Oui. Maintenant, au contraire, Céline, c'est. C'est chic, bon genre, enfin, c'est tout ce qu'on veut maintenant.
Il y a également à Paris 7, Jussieu, une bibliothèque Céline.
Voilà, ça c'est, par contre, je n'aurai aucune ironie là-dessus, car c'est un outil de travail formidablement précieux, fait d'ailleurs par un fou de Céline sur un plan d'érudition, qui a effectivement rassemblé là, non seulement tous les textes de Céline, les pamphlets qu'on trouve en général difficilement, ou en mettant le prix, car là c'est un marché aussi qui se joue avec les pamphlets, mais on trouve tout ce qui a trait à Céline, et c'est vraiment un outil de travail assez formidable, ça, à Jussieu.
C'était Céline Amedon, de 1951 à 1961, un héros convulsif de l'horreur moderne, le troisième et dernier volet de la série Céline avec Philippe Solers, par Jean Montalbetti et Christine Bernard-Sugy, pour Un homme, une ville. Première diffusion sur France Culture, le 18 juillet 1980. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.